Théologie fondamentale, Saint-Jeudard, 24 avril 1985.
Nous allons compter. Il n'a pas tombé sur vous ? Rien, heureusement. Faites attention là-bas. Hein. Vous mettez pas en dessous. Pas trop d'émotion. C'est le point d'orgue, voulez-vous ça. Bon. Son voisin sur sa tête, ça va pas bien. Hein. Et ça, écrabouillé. Hein. Faut vérifier de temps en temps. Un ministre de surveillance vis-à-vis de ces. Alors, nous sommes partis de cela et nous allons continuer. Qu'est-ce que c'est que le mystère de la parole de Dieu? Quels sont les liens entre la parole humaine et la parole de Dieu? Comment peut-il y avoir coopération entre parole divine et parole humaine? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là sous-jacentes pour voir ce qu'est la théologie. La théologie, fondamentalement, c'est ça. C'est quand même que l'homme peut coopérer avec le mystère de la parole de Dieu. S'il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de théologie. La théologie est le fruit de la coopération des deux. C'est intéressant, du reste, à essayer de bien saisir ce que ça représente. Alors essayons de revenir toujours là-dessus, parce qu'il y a un travail théologique. Hein. Et au fond, c'est cette question du parallélisme entre parole de Dieu, parole humaine. Parole de Dieu reçue dans la foi, parole humaine fruit de l'intelligence humaine. De fait, Dieu se sert de la parole humaine. Si Dieu s'était servi d'une parole totalement différente et avait inventé un langage, une logique et une philosophie, eh bien, il y aurait une coupure complète entre les deux. Et on parlerait entre croyants ce langage particulier de notre foi. De fait, qu'est-ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à la parole de Dieu comparativement à la parole humaine? Qu'est-ce qui caractérise? Nous avons essayé de comprendre un tout petit peu hein, en regardant l'Écriture. Nous avons une parole vivante, parole efficace, tout ce qui était dit sur la parole de Dieu qui était relié donc au Verbe. Mais le Verbe, c'est la lumière. Le Verbe n'est pas au sens strict une parole. Au sens strict. Quand vous dites que le Verbe est une parole, c'est une analogie métaphorique. Ça, quand on traduit au commencement était la parole, c'est très métaphorique. Tandis que quand j'ai dit au commencement était le Verbe, ce n'est plus métaphorique. C'est une analogie qu'il faut essayer de comprendre. Donc, le Verbe illumine la parole de Dieu, la transforme du dedans. Puisque ce n'est pas trois niveaux de parole, c'est la parole humaine qui est transformée par le Verbe de Dieu, par le mystère de la révélation. La révélation, c'est justement cette communication du Verbe, de la lumière de Dieu, au prophète, à celui qui reçoit la lumière divine, qui se sert de sa parole humaine, de la parole humaine qu'il a, de son intelligence, transformée par le charisme prophétique, parce qu'il a quand même le charisme prophétique. Tout le monde ne peut pas dire ma parole est la parole divine. Non. Donc il y a le prophète qui a l'inspiration, cette inspiration divine et cette inspiration qui relève justement d'un charisme, et qui fait que cette parole est illuminée du dedans et qu'elle devient une parole divine, parole de Dieu. C'est la parole extérieurement, c'est la parole humaine. Et on peut aller très loin dans ce domaine-là, puisque on sait bien qu'on dira que la parole divine se sert de tout l'acquis du prophète, de toute sa psychologie, de toute son expérience, de toute sa prudence. C'est très vrai, on peut aller très loin dans ce domaine-là. Et il y a un moment donné où il y a quelque chose d'autre. La parole de Dieu, par rapport à la parole de lui-même, c'est autre, autre. C'est analogiquement la même parole. Analogiquement, c'est la parole. Mais c'est autre, autre. Alors, qu'est-ce qui caractérise la parole de Dieu comparativement à la parole humaine? Oui, c'est ça le propre de faire la théologie de la parole de Dieu. Je peux regarder, ce que je vous ai dit, c'est la phase qu'il faudrait faire avant, regarder tout ce qui est dit sur la parole de Dieu à travers la révélation. C'est une chose très importante à faire quand vous lisez dans votre Lectio Divina, ayez ce petit fichier parole de Dieu, et regardez tout ce qui est dit sur la parole de Dieu. C'est très intéressant à faire. Tout ça demeure descriptif, c'est bien évident. Il faut ensuite passer à la théologie de la parole de Dieu. Et je crois que si je fais la théologie de la parole de Dieu, je dois me demander en premier lieu qu'est-ce qu'il y a comme distinction entre la parole de Dieu et la parole humaine. La grammaire est la même. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de nouvelle grammaire. Il y a un style poétique, un style symbolique, mais ça n'a rien à voir. Hein. Je peux très bien prendre les psaumes et puis considérer que, oui, quelqu'un pourrait réciter des psaumes comme ça. Le jeune Nietzsche composait des psaumes très très beaux, qui étaient analogues à ceux de la Bible. C'est-à-dire totalement différents, puisque là, les uns étaient inspirés, les autres étaient pas. Quand je demande à un poète de faire des hymnes, très bien, ce n'est pas des psaumes. Les uns sont inspirés, lui, instinct poétique, peut demander au Saint-Esprit de l'éclairer, mais il n'est pas quand même pas inspiré. Et là, vous voyez la valeur des hymnes qui ont été récités pendant des années et des années par toute une tradition. Ça reste la tradition, ce n'est pas l'inspiration directement, mais c'est la tradition qui fait que ces hymnes ont un poids d'amour, de prière, qui est différente d'hymnes inventés aujourd'hui, pour renouveler. C'est très bien, je comprends très bien qu'on peut le faire, mais il faut faire un petit peu attention. Il faut comprendre que la parole de Dieu a toujours, toujours une valeur unique, parce qu'elle est inspirée. Alors, quand je dis que la parole de Dieu est inspirée, c'est autre, je dis l'inspiration. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Je ne peux pas dire autre chose. Celle-ci peut être inspirée aussi, mais d'une inspiration qui est autre. Là, c'est une inspiration divine. Tandis que là, ça peut être une inspiration poétique. L'inspiration divine ne s'opposant pas à l'inspiration poétique, mais c'est un poétisme autre. Quand je dis donc que c'est une parole inspirée, qu'est-ce qu'il y a de propre à cette parole inspirée? Qu'est-ce qui la caractérise? Je dis, ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas les mots, Dieu n'a pas donné de nouveaux mots. Saint Thomas nous dit, et c'est intéressant de voir ça, parce que Saint Thomas nous dit que la foi ne nous donne aucun nouveau concept au niveau de l'appréhension. La foi ne nous donne aucun nouveau concept. Le poète, hein, inspiré humainement, peut avoir de nouveaux concepts. Ça, c'est évident. Par de nouvelles images. La foi ne nous donne aucune nouvelle image. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez, ça, c'est la pauvreté de la foi. Alors, la foi ajoute quoi ? La foi ajoute une lumière du côté du jugement. Alors, je dis ça en passant, mais c'est quand même très intéressant. C'est parce qu'une philosophie qui ne fait plus la distinction entre appréhension et jugement, je ne sais pas comment le sentir. C'est vrai, je ne vois pas comment le sentir. Quand on fait la distinction entre appréhension et jugement, je note tout de suite, parce que c'est ça qui va nous permettre de voir quel genre de philosophie on peut atteler à la foi. C'est ça mon but. Hein. C'est mon but, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre. Et c'est important pour nous, puisque nous sommes en face du pluralisme théologique. Il faut savoir, dans ce pluralisme, ce qui est utilisable et ce qui ne l'est pas. Je suis obligé de faire le discernement. Si je suis un théologien, je dois faire le discernement. Qu'un simple laïc ne le fasse pas, ça c'est autre chose. C'est le théologien qui est responsable. Si j'écris un livre de théologie empoisonné, je suis responsable de l'éditer. Et j'empoisonnerai les gens. C'est sûr, parce qu'il y a des quantités de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont la foi suffisamment forte pour dire « ça, ça ne va pas ». C'est contraire à mon sens chrétien. Et il faut un sens très chrétien très fort. Il faut évidemment des âmes de raison. C'est distinguant tout de suite. Quand vous donnez à des carmélites une théologie un peu faisandée, elle s'aperçoit tout de suite. C'est faisandé. Ça ne va pas. C'est pas catholique. Tout de suite, la prieure mettra ça à côté et elle attendra quand la théologie la passe en disant « Mon père, est-ce que ce livre est bon? Est-ce que je peux le mettre dans les mains de mes sœurs ?» Parce qu'elle est responsable de sa communauté. Mais quand il n'y a pas de prieure, hein, et que vous avez des brebis isolées et qui achètent les derniers, parce que c'est le dernier qui apparaît, et que le vendeur dit « Oh, c'est merveilleux, ça se vend comme des petits pains, achetez ça, c'est un peu indispensable. Tout chrétien aujourd'hui doit acheter ça. » Et la propagande dit ça, si vous n'achetez pas ça, vous n'êtes pas... Et ainsi de suite, tout le baratin. Et vous l'achetez, et puis vous empoisonnez. Ça arrive. Parce que le poison, petit à petit, fait que la foi, à la place d'être édifiée, on sème des doutes. Ça commence toujours comme ça. On sème des doutes. « Ah, jusque-là, j'avais cru que... » Maintenant, on dit que la présence réelle, ah, oh, c'est peut-être symbolique. On doit essayer de comprendre. Et Adam, oh, ça représente, c'est un pluriel, Adam. Donc, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est l'humanité dans son âge d'or, à la manière de Platon. Il avait une belle d'or, Adam. Il n'a jamais existé. Péché originel, oh, c'est péché collectif. Petit à petit, et les gens répètent ça. Ils ne comprennent pas. Et tout ça, quel est le fautif, les théologiens ? Les théologiens ont émis ces idées-là. Est-ce qu'on a le droit de semer du doute ? C'est une question très très délicate que nous traitons ensemble. Hein. Je la cherche avec vous, croyez-le bien. Hein. Je ne suis pas du tout à donner une conclusion. Mais je crois qu'il faut le faire. Si on ne le fait pas aujourd'hui, et si on ne le fait pas entre nous, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? On doit faire ça. Il y a un livre qui vient de paraître, hein, qui était une traduction du livre du cardinal Ratzinger, qui serait très intéressant à voir là-dessus. Parce que c'est sur la théologie. Et c'est du... Alors évidemment, il a écrit ça avant qu'il soit à la place qu'il a maintenant, ce serait plus difficile pour nous de l'écrire. Mais puisqu'il est dans cette place-là, évidemment, on le donne aujourd'hui. Je ne sais pas du reste ce qu'il dirait exactement par rapport à ce livre qui a été écrit. On voit très bien qu'il y a une position un petit peu différente. C'est intéressant. Il faut réfléchir sur ces problèmes-là. Et donc, c'est le problème, vous voyez, de voir qu'est-ce qui peut coopérer avec la parole de Dieu pour faire la théologie. Parce que la théologie, ce n'est pas uniquement la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu plus l'intelligence humaine qui coopère. une coopération de mon intelligence humaine avec la parole de Dieu. Ce que vous faites quand on prêche, quand vous prêchez, vous faites œuvre de théologien, ou quand vous prêcherez, si vous voulez, quand vous prêchez, vous faites œuvre de théologien. Quand quelqu'un vient vous demander un conseil et que vous faites une homélie pour l'édifier, n'est-ce pas, vous prêchez, vous faites une coopération de votre intelligence avec la parole de Dieu. Et cette coopération des deux, vous n'allez pas simplement avoir... Alors ça, vous seriez autrement, vous seriez comme certains, n'est-ce pas, qui, uniquement la parole de Dieu. Alors, telle question, la parole de Dieu. Telle question, la parole de Dieu. Alors, on cite uniquement la parole de Dieu. C'est très bien, mais la parole de Dieu ne suffit pas à tout. Dieu veut qu'il y ait une coopération de notre intelligence avec la parole de Dieu. Et ça, toute la tradition chrétienne nous montre. Il faut certaines sectes chrétiennes pour uniquement dire la parole, seulement la parole. Et uniquement la parole. Et à quand cela, Jésus nous dit lui-même, la parole tue. Quand vous faites que répéter la parole. Donc, la parole est vivante, et si elle est parole, si elle est vivante, elle implique donc de retourner vers Dieu, nous l'avons vu, parole d'Isaïe, elle retourne vers Dieu en fécondant la terre, l'intelligence. La parole de Dieu féconde l'intelligence, unie à la foi, et nous avons à partir de là la théologie. La théologie, c'est l'œuvre des deux, c'est dans la lumière de la parole de Dieu, c'est l'intelligence humaine qui coopère. Alors, il y a une théologie qui peut être saine et une théologie qui peut être mauvaise. Et vous comprenez que la parole de Dieu, elle est toujours la parole de Dieu, mais elle est liée à un apport extrinsèque. Et si cet apport extrinsèque, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qui peut faire la théologie? Ou qu'est-ce qui peut me faire une fausse théologie? Dans quelle mesure pouvons-nous parler du pluralisme théologique? Jusqu'où va le pluralisme théologique? C'est toutes ces questions annexes qui sont dans cette coopération que nous avons essayé de comprendre, la parole de Dieu et la parole humaine, c'est-à-dire l'intelligence humaine. Alors je me pose la question maintenant, quelle différence y a-t-il entre la parole de Dieu et la parole humaine? Je dis cette chose que j'accepte, elle est de saint Thomas, il faut la comprendre, je la crois très juste, c'est que la foi n'apporte aucun nouveau concept. Lisez toute l'écriture, il n'y a absolument aucun mot dont la signification ne peut pas être compris au niveau humain. C'est pour ça que je peux lire toute l'écriture au niveau philosophique. Je vous l'ai déjà dit. J'ai des amis qui lisent l'écriture uniquement en philosophe. C'est intéressant. C'est un livre merveilleux au point de vue philosophique, même au point de vue purement philosophique, c'est le plus beau des livres. C'est le livre le plus grand. Et je peux, à partir de l'écriture, à partir de la Bible lue d'une façon philosophique, découvrir une anthropologie. Il y a toute une anthropologie. Alors, qu'apporte la foi? Qu'apporte la parole de Dieu comparativement à la parole humaine? Uniquement le point de vue du jugement. Un jugement nouveau. Il y a un jugement nouveau dans l'adhésion de foi. L'adhésion de foi implique un jugement qui ne peut pas être identique au jugement purement humain. Autrement dit, s'il n'y a pas de nouveau concept, il y a un nouveau jugement. Quand j'ai dit Dieu est Père, et quand je dis que Dieu est Père en pensant à la fécondité qu'il y a en Dieu, le jugement que je porte en disant Dieu est Père est tout autre que le jugement que je dirais Dieu est Père à la manière des néoplatoniciens. Il y a quelque chose d'autre. Parce que quand je dis Dieu est Père, je regarde cette affirmation dans la lumière du mystère de la très sainte Trinité. Et en disant que Dieu est Père dans la lumière de la très sainte Trinité, j'adhère au mystère de la fécondité divine. Et donc il y a quelque chose de nouveau là. Alors qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de nouveau? Puisque ce n'est pas de l'ordre de l'appréhension. C'est de l'ordre du jugement. Le jugement. Tout jugement philosophique est relié à un jugement d'existence. Le jugement de foi, est-il lié à un jugement d'existence? Oui. Mais pas au jugement d'existence du philosophe. À un autre jugement d'existence. C'est un jugement d'existence qui est justement la réalité divine qui me révèle ce qu'elle est. C'est Dieu qui est présent. Et le Dieu un et le Dieu trine. Dans tout jugement de foi, pour le chrétien, parce que pour le jugement de foi dans l'Ancien Testament, ce n'est pas encore explicite. Alors on dirait que c'est le jugement du Dieu simple, unique. Tandis que pour le chrétien, dans tout jugement de foi est impliquée l'existence de la très sainte Trinité. Je ne peux pas avoir un jugement de foi sans le jugement d'existence de la très sainte Trinité. Comme je ne peux pas faire l'analogie, parce que c'est très intéressant pour nous, comme je ne peux pas faire un jugement philosophique sans que le jugement d'existence. Alors, ceux qui étaient là au cours ce matin, rappelez-vous ce que je vous disais à propos de l'aspect de la critique, l'aspect de la logique et l'aspect de la philosophie. Le jugement d'existence, c'est le jugement philosophique. La critique peut se couper du jugement d'existence. La logique peut se couper du jugement d'existence. Pas la philosophie. Et c'est ce qui caractérise un jugement philosophique. Un jugement philosophique est toujours lié à l'existence. C'est en ce sens-là que la critique ne peut pas exister, une vraie critique philosophique, sans la philosophie. Elle est radicalement enfoncée dans le point de vue philosophique. Eh bien, tout jugement de foi est donc dans la lumière de l'essai divin. Donc de l'ipsum esse subsistens, c'est-à-dire de l'essai divin en tant qu'il est absolument saint, et de l'essai divin en tant qu'il implique les trois personnes. Pas nécessairement explicité, mais en acte. Je crois que c'est ça qui caractérise ce jugement de foi. L'adhésion de foi. Pas nécessairement explicité, parce que quand je dis dans la foi « Dieu est créateur », n'est pas explicité immédiatement la très sainte Trinité. Mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, puisque de fait, le créateur, c'est les trois personnes divines, dans leur unité. Donc ce n'est pas explicité, mais c'est actuel, sans être exclu. Ça va très loin du reste, ça. Parce que vous comprenez, si j'affirme cela, toute parole de Dieu est donc reçue dans la foi. Et toute parole de Dieu est reçue comme la révélation du Dieu simple et trine. Toute parole divine. Toute parole divine implique donc un jugement d'existence. Toute parole divine implique un jugement d'existence. La foi est une connaissance réaliste, impliquant un jugement d'existence. Et un jugement d'existence immédiate, pas lointain, immédiate. La foi est une adhésion à la révélation qui m'est faite par la parole de Dieu. C'est pour ça que saint Thomas dit que la raison formelle de la foi, c'est la vérité première outre révélance. C'est la vérité première se révélant. Et la vérité première, c'est Dieu dans sa simplicité et dans sa trinité, et dans ses trois personnes. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, notez-les et posez vos questions. Et c'est très important ce que j'essaie de comprendre avec vous ici, hein, parce que je crois que nous devons essayer de cerner le plus possible ce problème. Et ça, c'est une question vitale pour nous. Donc, s'il y a des choses que vous ne voyez pas, vous le notez, hein, et puis vous mettrez ça en question, parce que c'est intéressant d'essayer de comprendre comment tout jugement de foi adhère à l'existence de Dieu dans sa simplicité, ipsum esse subsistens, la simplicité de Dieu, Dieu un, le Dieu vrai, c'est le Dieu unique, et le mystère même de la fécondité de Dieu, donc les trois personnes divines. Et à travers, puisque c'est à travers la révélation, c'est à travers la parole de Dieu que se fait l'adhésion de foi, je peux dire que dans toute adhésion de foi, chaque fois que ma foi reçoit la parole de Dieu, j'adhère au Dieu un et trine. Nous pouvons aller un peu plus loin pour essayer de comprendre tout de suite ce que représente cette adhésion de foi. De fait, cette révélation se fait dans son sommet, selon ce que nous est dit au début de l'Épître aux Hébreux, par le mystère du Verbe incarné. Donc, dans tout acte de foi est impliquée cette médiation du Christ. Je ne peux pas mettre entre parenthèses la médiation du Christ, comme je ne peux pas mettre entre parenthèses la fécondité de Dieu, comme je ne peux pas mettre entre parenthèses la simplicité de Dieu. Donc, vous voyez, trois aspects qui sont toujours impliqués dans mon jugement de foi. Au niveau existence, simplicité de Dieu, les trois personnes et le mystère du Verbe incarné. Toute parole divine est vue à travers ce jugement d'existence. Et ce jugement d'existence, il est directement dans la lumière du Verbe de Dieu. Puisque je ne peux pas le poser par moi-même. C'est un don de Dieu, c'est le don de la foi. Et le don de la foi implique cela. Toute parole, alors comprenez bien, je ne dis pas que toute parole divine implique explicitement les trois, mais toute parole divine est en référence immédiate avec Dieu dans sa simplicité, Dieu trine et le Verbe de l'incarnation. Alors vous allez dire toutes les paroles de l'Ancien Testament. Oui, toutes les paroles de l'Ancien Testament pour nous, en tant que chrétiens, elles sont liées au Verbe de Dieu. Je ne peux pas lire l'Ancien Testament comme chrétien en séparant. Je ne peux pas. Je suis obligé de lire toujours l'Ancien Testament dans cette lumière. Autrement, je fais une abstraction. Or, la foi répugne à l'abstraction. Ce n'est pas une connaissance abstraite, la foi. C'est une connaissance qui, justement, implique une adhésion. Le point de départ de la foi, c'est la pia affectio, donc l'inclination volontaire qui incline mon intelligence à adhérer à Dieu qui me parle. C'est toujours dans un dialogue entre Dieu et moi que se fait le mystère de l'adhésion de foi. Je suis enseigné actuellement par Dieu. Et donc je reçois directement sa lumière et j'adhère à son mystère à travers toute la parole de Dieu. Voilà ce qui caractérise la foi, c'est ce jugement d'existence qui n'est pas du tout le même, voyez bien, que le jugement d'existence au niveau philosophique, au niveau de mon intelligence humaine. Autrement dit, reprenons le primo cadit in intellectu de saint Thomas. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence humaine, c'est ens. Qu'est-ce qui tombe en premier lieu dans une intelligence surnaturalisée par la foi? Quel est le primo cadit? Puisque c'est ce primo cadit qui tombe dans l'intelligence humaine qui fait comprendre le niveau philosophique. Qu'est-ce qui tombe en premier lieu? C'est la raison formelle de la foi. La vérité première se révélant. Ça, c'est sûr. Donc la première chose qui tombe dans une intelligence transformée par la foi, c'est la vérité première se révélant. Et je lis tout et j'adhère tout dans cette lumière de la vérité première se révélant. Alors la vérité première, c'est Dieu dans sa Trinité, et c'est Dieu se révélant à moi dans le mystère du Christ. Si j'étudie bien ce que dit saint Thomas, la raison formelle de la foi, c'est la vérité première, se révélant, c'est donc la vérité première, la simplicité, la trinité, le verbe incarné. Puisque outre révélance, c'est le verbe incarné. C'est la grande révélation qui se fait par le verbe incarné. Donc, vous voyez bien, et ça je crois capital, ça, c'est ça qu'on oublie trop. Parce qu'on dit ordinairement, très souvent aujourd'hui, sans préciser, c'est juste, en gros, mais petit à petit on oublie le reste. Alors on dit, la foi regarde en premier lieu la parole de Dieu. Ah, non, la foi regarde en premier lieu la vérité première se révélant, et toute parole de Dieu est vue dans cette lumière. Et toute parole de Dieu, j'y adhère dans un jugement d'existence dans cette lumière. Puisque là, je crois que vous pouvez suivre. Vous pouvez comprendre ça. Et ça, c'est important. C'est un simple rappel de ce que c'est que la foi pour montrer où se situe exactement la lumière de foi. Elle ne se situe pas du côté concept nouveau. C'est pour ça que si le croyant est un imbécile, il reste un imbécile. S'il est quelqu'un qui n'est pas très intelligent, ce n'est pas la foi qui lui permettra de passer des examens. Non. Parce qu'il n'y a pas de nouveau concept. Si le croyant est un être très intelligent, il gardera ses concepts. Il tombera peut-être un petit peu d'orgueil, il se vantera un peu moins, et il sera plus humble. Parce que ça, la foi, hein, vivant, va apporter l'humilité. Mais c'est vrai que la foi n'apporte pas de nouvelles connaissances au niveau concept. Alors, vous voyez la difficulté. Où va s'insérer donc la possibilité pour une intelligence éclairée par la foi de recevoir un apport autre que celui qui lui est donné directement par la révélation. L'apport qui lui est donné directement par la révélation, je comprends. En tant que croyant, je suis fait pour lire l'Écriture. Et l'Écriture est mon bien, c'est mon pain. Je mange la parole de Dieu, je me nourris de la parole de Dieu, je mange le petit livre, tout ça je comprends très bien. Je le vis plus ou moins, mais je le comprends très bien, c'est le propre de la parole, c'est le propre du croyant. Mais je vous ai dit tout à l'heure, le croyant ne fait pas seulement répéter la parole de Dieu, le croyant peut coopérer avec la parole de Dieu. Et c'est en coopérant avec la parole de Dieu que s'élabore la théologie. Et c'est uniquement cette coopération qui est la théologie. Il y a d'autres coopérations. Hein. Quand le prophète Isaïe dit que la parole de Dieu est comme la rosée qui remonte au ciel en fécondant la terre, la théologie est présente là-dedans. Ça, c'est sûr. C'est une manière pour notre intelligence d'être fécondée par la parole de Dieu et de produire la théologie. La théologie est une louange à Dieu. Ça, c'est sûr. La théologie du louange à Dieu, c'est de coopérer pour montrer toute la richesse, toute la plénitude de la parole de Dieu. Donc c'est une louange pour Dieu. Je remercie Dieu, en faisant de la théologie, je remercie Dieu de m'avoir donné sa parole. Et c'est ma manière d'être intelligent, de remercier Dieu, en coopérant et en faisant la théologie. Il ne faut pas croire que la théologie est totalement indifférente à Dieu. Pas du tout. Puisque je reçois sa parole et je coopère. Je peux coopérer d'une autre manière, je peux coopérer en priant, en méditant. La méditation, je reste, est une sorte de théologie. Toute méditation est une sorte de théologie. Alors, je regarde cette coopération du théologien. Et c'est là, vous voyez, où tout de suite, je vois qu'il y a un certain pluralisme possible, puisque je dis que toute méditation est une théologie. Or, dans la méditation, il y a des niveaux différents. Et donc, ça prouve que la coopération a des niveaux différents. Et c'est ça qui serait intéressant à voir. Hein. La théologie, coopération de l'intelligence humaine avec la parole de Dieu. Or, l'intelligence humaine, elle est diverse. Et donc, elle peut coopérer différemment avec la parole de Dieu. Il y aura la coopération la plus parfaite qui soit, qui sera la louange. Louer Dieu, la liturgie, c'est une coopération avec la parole de Dieu. Et la théologie est une autre coopération. Alors, quelle est la plus parfaite ? Faire de la théologie ou louer Dieu ? Vous pouvez discuter. Le tout, c'est que ce soit dans la volonté du Père. Ça, c'est sûr. Ça. Là, on peut toujours se sauver. Non. Dieu nous demande d'être serviteurs de Dieu. Par la théologie, il nous demande ça, c'est un service qu'on doit rendre à Dieu. Il nous demande de le louer. Très bien, on le loue. On a une voix de rossignol, on met son gosier de rossignol au service de la foi, en disant c'est merveilleux, je loue Dieu toute la journée. Et je loue Dieu, c'est bien, c'est très bien, ça doit se faire. Il y a encore d'autres manières de méditer, hein. Pas seulement la liturgie, pas seulement la théologie, il peut y avoir encore. Une autre manière, c'est d'essayer d'expliquer ça au bon peuple de Dieu. Jean Vanier vient d'écrire un livre, « Je marche avec Jésus », n'est-ce pas ? Quand Jean Vanier dit « Je marche avec Jésus », c'est une théologie adaptée à tout le milieu dans lequel se trouve Jean Vanier. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas des intellectuels, mais qui ont beaucoup de cœur. Alors il essaie de faire une théologie qui soit... C'est encore une coopération. Il y a mille manières de coopérer. Donc de ce point de vue-là, je comprends très bien qu'on peut parler d'un pluralisme théologique. La très grosse difficulté, c'est de savoir s'il y a plusieurs théologies scientifiques. C'est là où il faut préciser. Si la théologie est dite scientifique à l'Église de Saint-Thomas, pas une méditation, mais une théologie scientifique. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs manières d'avoir une théologie scientifique ? Ou n'y en a-t-il qu'une ? Tout en acceptant le pluralisme théologique au niveau méditation, au niveau louange de Dieu, au niveau communication aux enfants, au niveau catéchétique. Vous voyez ? Il y a un ordre. Dès qu'il y a pluralisme, il y a un ordre. Que ce n'est pas anarchique. C'est pas possible que la théologie soit anarchique. Ça, je peux le dire tout de suite. Donc, un pluralisme qui serait anarchique ne serait pas de Dieu. Un pluralisme ne peut être que de Dieu qu'en impliquant un ordre et donc un premier. Et ce premier, il faut savoir si c'est la théologie scientifique, la théologie mystique, la théologie plus esthétique. Il y a un premier, puisqu'il y a un ordre. Dès qu'il y a une multiplicité qui vient de la sagesse de Dieu, elle est ordonnée. Et donc il y a un premier. C'est pas toujours commode de le décider. Hein. Alors, voyez c'est pour que vous sentiez mieux le problème. Hein. Alors, je disais que la foi implique ce jugement d'adhésion par la parole de Dieu. Où l'intelligence peut-elle intervenir dans cette adhésion de foi? Où l'intelligence peut-elle intervenir? Je dis, l'intelligence intervient d'abord dans tout acte de foi. L'intelligence est impliquée. Je ne peux pas faire un acte de foi sans que mon intelligence coopère. Autrement dit, la foi pure, ça n'existe pas. Parce que c'est toujours une adhésion de foi d'un homme. D'un homme qui a la foi et qui, ayant la foi, adhère à la parole de Dieu. Vous voyez ? Alors, parce que c'est une adhésion d'un homme, cet homme met son esprit au service de la foi. C'est comme la grâce. La grâce présuppose toujours la nature. La foi présuppose toujours l'intelligence. Et donc, je ne peux pas faire un acte de foi sans que l'intelligence soit présente. C'est pour ça que si mon intelligence est qu'ancienne, je serai un croyant qu'ancien qui, par le fait même qu'il est qu'ancien, son intelligence a plus de peine à s'ouvrir à une réalité transcendante, au-delà de ce que je saisis formellement par mon intelligence. Alors, d'autre part, faisons attention, hein. Le croyant n'est pas le philosophe. Le croyant, c'est l'homme. Et donc, il y aura toujours la distinction entre l'homme qui croit et le philosophe. Il pourra y avoir une situation limite où le philosophe, qui est cet homme, en raison même de sa philosophie, met des obstacles à sa foi. Il peut y avoir une situation limite, une idéologie peut-elle ouvrir mon intelligence à la foi? Bon, je ne regarde pas ces cas-là. Hein. C'est des cas intéressants à voir, mais je ne les regarde pas. Je regarde tout simplement une intelligence qui s'ouvre à la foi et qui adhère à la foi. Alors, puisque Dieu se sert de la parole, et que Dieu se sert de la parole humaine, par la parole humaine, il y aura donc toujours un contact entre la foi et l'intelligence humaine. Ce qui permet une coopération. S'il n'y avait pas de contact entre la parole divine et la parole humaine, il n'y aurait peut-être pas de possibilité d'une coopération. Dieu aurait pu très bien me donner une foi toute intérieure sans passer par la révélation, sans passer par le caractère objectif de la révélation. Il m'aurait donné à ce moment-là une foi toute intérieure. Si Dieu m'avait donné une lumière intérieure de foi, uniquement intérieure, je crois qu'il n'y aurait pas de théologie. La théologie est possible parce que Dieu se sert de la parole humaine. Je crois que ça, c'est ce que nous devons dire. Parce que par la parole humaine dont Dieu se sert, il y a un contact entre l'intelligence qui entend cette parole, et la foi qui en vit. Il y a donc ce contact possible. Pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait contact. Or, si la foi était totalement autre que mon intelligence, il n'y aurait pas de contact. Et donc, si la foi était purement intérieure, la parole humaine et mon intelligence humaine ordinaire, il n'y aurait pas de contact. Vous voyez, je crois que c'est une certaine position que... Pour comprendre un peu ce que dit Barthes, c'est un peu ça. On regarde uniquement l'acte intérieur de foi, indépendamment de la parole de Dieu. Alors quand on regarde l'acte de foi uniquement intérieur, en dehors de la parole de Dieu, on ne voit pas la possibilité du contact. La possibilité du contact, c'est par la parole de Dieu. Puisque Dieu se sert de la parole humaine, en s'en servant de cette parole humaine, sans détruire cette parole humaine, il y a donc possibilité pour mon intelligence humaine de toujours mieux comprendre ce que c'est que cette parole. Et donc, par là, il y a une possibilité d'une coopération. Donc la possibilité de la coopération provient du fait que, dans mon acte de foi, je reçois la parole de Dieu et que cette parole de Dieu est liée à la parole humaine. Je crois que c'est cela qui explique la possibilité d'une coopération. Ensuite, il faut voir comment se fait cette coopération. Ce que nous verrons la fois prochaine. Oui. Il faut d'abord poser cette possibilité d'une coopération par le mystère de la parole de Dieu. Et il faut comprendre ce qu'ajoute la foi dans l'adhésion de foi, qui lui est tout à fait caractéristique. Et comment il y a donc une possibilité d'expliciter certaines choses de la parole, puisque Dieu se sert de la parole humaine.